Donc, ce matin, on continue notre série validée à partir de la lettre de 1 Jean. Et ensemble, dans cette série-là, on regarde différentes marques du chrétien. Et une des marques qui va revenir à plusieurs reprises, c'est notre amour. Notre amour pour Dieu, notre amour pour les autres. La semaine passée, Pasteur Norman nous a dit ceci. À mesure que je réalise son amour pour moi, je vais l'aimer de plus en plus. Mon amour pour Dieu prend de plus en plus de maturité. En d'autres mots, obéir, ce n'est plus une question de devoir ou de légalisme. Au contraire, c'est motivé et inspiré par ta compréhension qui est de plus en plus grande de l'amour de Dieu. Notre amour pour Dieu qui grandit en nous a pour résultat de nous faire grandir et ressembler de plus en plus à Jésus. Et quand notre amour pour Dieu, pour Jésus grandit, ce qui va résulter de ça, c'est que notre amour pour les autres va grandir. Et c'est ce qu'on va voir ce matin dans le passage qu'on va regarder dans 1 Jean au chapitre 2. Vous pouvez aller dans 1 Jean au chapitre 2. C'est la suite du passage qu'on a vu la semaine passée et il va encore une fois leur parler d'un commandement qu'ils ont besoin de suivre. Et Jean va leur dire, « Frères et sœurs, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris. » Chapitre 2, verset 7. « Frères et sœurs, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien, celui que vous avez reçu depuis le début. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue dès le commencement. » Toutefois, c'est aussi un commandement nouveau que je vous écris. Sa nouveauté se vérifie en lui et en vous, car les ténèbres se dissipent et la vraie lumière brille déjà. Et ce matin, on veut regarder ensemble ce commandement dont nous parle Jean. De quel commandement? Quel est ce commandement qui est à la fois un commandement ancien et à la fois un commandement nouveau? Et ce qu'on va voir, c'est que Jésus lui-même a dit à ses disciples, « Je vous donne un commandement nouveau. » Et c'est ce commandement-là que Jean est en train d'adresser. Ce commandement, c'est de vous aimer les uns les autres. « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Et Jean va faire il va parler de ce commandement comme étant à la fois un commandement ancien et à la fois un commandement nouveau. Pourquoi on parle d'un commandement ancien? Eh bien, parce que l'amour, c'est le fondement du message de Dieu pour chacun d'entre nous, pour l'humanité. L'amour, c'est le fondement du message de Dieu. Dès le commencement, Dieu va créer un monde qui est bon, où chaque être humain est en harmonie les uns avec les autres, où l'être humain est en harmonie avec Dieu, et tout le monde est créé à l'image de Dieu, des personnes d'amour, qui sont capables de donner de l'amour, qui sont capables de recevoir de l'amour et qui aiment Dieu et qui reçoivent l'amour de Dieu. Ça, c'est le fondement sur lequel Dieu a créé le monde. Dieu lui-même est amour et tout ce qu'il a créé, il l'a créé avec amour. Et il nous a créé, nous, à son image pour qu'on puisse refléter son amour dans le monde. Ce commandement d'aimer notre prochain se retrouve partout dans les Écritures. Jésus va dire lui-même, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur » en parlant des plus grands commandements. Il va dire, « Le premier commandement, c'est que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier commandement et le plus grand. Et voici le deuxième qui lui est semblable. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Donc, dans toute la parole de Dieu, et même depuis la création, tout ce qu'on voit, c'est cet appel, ce commandement d'aimer Dieu et d'aimer son prochain. Je faisais une recherche cette semaine dans l'Ancien Testament, et ce commandement, on le retrouve dans Lévitique 19-18, où le passage dit « Tu ne te vengeras pas et tu ne garderas pas de rancune contre les membres de ton peuple. Tu aimeras ton prochain » comme toi-même, je suis l'Éternel. Et si on regarde dans l'Ancien Testament, à moins que je me trompe, mais je suis pas mal certain que c'est le seul endroit où on va lire ce verset. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais toute la loi de Dieu qui est donnée dans l'Ancien Testament, toutes les règles qui sont données à Israël visent à faire grandir notre amour pour Dieu, à aimer Dieu et à aimer notre prochain. Quand on regarde à des règles, par exemple, qui visent à protéger les étrangers, qui visent à prendre soin des opprimés, protéger la vie humaine, qui démontrent la valeur de la vie humaine, la Bible est remplie de commandements, de choses à faire, de choses à suivre qui nous démontrent que Dieu est un Dieu d'amour qui nous appelle à aimer notre prochain. L'amour, c'est le fondement du message de Dieu pour l'humanité. Dieu veut qu'on l'aime et il veut qu'on s'aime les uns les autres. C'est le cœur de Dieu. C'est son intention. Et parce que l'être humain, dès la Genèse, va rejeter Dieu, va dire à Dieu, « Je sais ce qui est bon pour moi, j'ai pas besoin de toi. » Encore une fois, c'est une relation d'amour qui est brisée. Quand l'être humain va briser cette relation avec Dieu, eh bien, ce qu'on va voir et ce qu'on voit dans toute la Bible, c'est Dieu, un Dieu d'amour qui va restaurer sa relation avec sa création, avec les êtres humains. C'est un Dieu qui va mettre en branle un plan de sauvetage pour rétablir cette relation brisée, pour qu'à nouveau on puisse aimer Dieu et aimer notre prochain. Et ça, c'est le fondement du message de Dieu. Et c'est ce qu'on va voir dans tout, ce qu'on voit dans toutes les Écritures. Dieu va appliquer un plan de sauvetage où il va envoyer son propre fils mourir pour qu'on puisse être réconcilié avec Dieu. Dieu va nous sauver de notre rébellion contre Dieu pour qu'on puisse avoir une relation avec Dieu. Donc oui, c'est un vieux commandement. Un vieux commandement parce qu'il incarne le cœur de Dieu dès la création et même avant la création parce que Dieu est amour de toute éternité. Mais c'est un nouveau commandement. Un nouveau commandement, et le texte nous dit dans 1 Jean, on va juste le relire, le verset 8. « Toutefois, c'est aussi un nouveau commandement, un commandement nouveau que je vous écris. Sa nouveauté se vérifie en lui et en vous, car les ténèbres se dissipent et la vraie lumière brille déjà. » L'amour trouve son accomplissement parfait en Jésus. Dans Jean 13, 34, Jésus va leur donner ce commandement nouveau. Il va leur dire, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. » C'était pas un commandement nouveau comme on vient de voir dans le sens que c'était indiqué dès le début de la parole de Dieu. Mais la nouveauté de ce commandement-là se trouve dans le fait que Jésus dit, « Comme je vous ai aimé. » Cette nouveauté-là se trouve dans l'amour de Jésus pour nous. Quand on regarde comment Jésus nous a aimés, et quand on regarde à quel point on a été aimé par Jésus, c'est de cette manière-là que Dieu nous invite à aimer notre prochain, à nous aimer les uns les autres. « Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. » Regardons un peu comment Jésus nous a aimés. D'abord, Jésus nous a aimés avec humilité. À un moment donné, Jésus était avec ses disciples, et bien qu'il c'est lui qui est le maître, les disciples le suivaient lui. Les disciples s'assoyaient à ses pieds pour apprendre de lui. Ils voulaient vivre comme il vivait, ils voulaient avoir sa connaissance, ils voulaient le suivre pour pouvoir aussi propager son message. Les disciples étaient avec lui, c'était clair que Jésus était le maître, c'était le chef de la bande. Mais bien que Jésus était le maître, c'est Jésus qui, à un moment donné, a dit à ses disciples, « Je vais vous laver les pieds. » Moi, le maître, je vais faire ce qu'un serviteur devrait faire. C'était coutume pour eux, en Israël, de se laver les pieds après un long voyage où il y avait beaucoup de sable, on marche, on est en sandales, on rentre dans la maison, les pieds sont sales. Et Jésus dit, « Moi, je vais vous laver les pieds. Et dans ce moment où Jésus va laver les pieds à ses disciples, qu'est-ce que Jésus va dire à ses disciples? Il va dire, vous n'êtes pas plus grand que le maître. Si moi je fais ça, vous devez faire ça aussi. Vous devez vous aimer les uns les autres en élevant les autres, en servant les autres. L'amour de Jésus pour nous est la démonstration de la vraie grandeur. Quand on arrive à élever les autres autour de nous, quand on est disposé à servir, à prendre soin de ceux qui nous entourent. Et pour prendre soin de nous, Jésus a dû s'abaisser. Il faut qu'on se rappelle que Jésus est venu, a accepté de venir sur la terre. Lui qui, de toute éternité, est en relation avec Dieu, avec son Père, qui était dans le ciel, dans l'éternité. Il vivait sans contrainte de temps, sans contrainte humaine, sans aucune contrainte. Il est Dieu qui vit parfaitement et qui a dû s'abaisser en quittant son royaume, son éternité. Il a quitté sa relation avec son Père. On va voir même sur la croix, il va se trouver seul. Et pour la première fois dans l'histoire de l'éternité, dans l'histoire de Dieu, Jésus va se trouver seul. Jésus a accepté de s'abaisser pour venir nous servir. Il s'est humilié. Il a fait preuve d'humilité pour qu'on puisse être servi, pour qu'on puisse goûter à son amour. Et ça, c'est une autre manière dont Jésus manifeste son amour. Jésus nous aime d'un amour sacrificiel. Parce que l'ultime service de Jésus pour nous, c'est de donner sa vie à la croix. C'est de mourir, c'est de donner sa vie. Jésus va même dire à ses disciples, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses disciples, pour ses amis. Jésus arrive et il vient nous servir, mais pas de n'importe quelle manière. Vraiment avec cette intention-là de « je vais payer le prix de vos péchés à la croix. Je vais mourir pour vous. Je vais mourir la mort que vous méritez. » Je vais me sacrifier pour que vous puissiez avoir la vie, pour que vous puissiez être réconciliés avec Dieu. Et cet amour, comme on a vu la semaine passée, c'est cet amour, un amour qui nous transforme, qui nous fait grandir, qui nous amène à voir l'amour de Dieu pour nous et qui nous amène à aimer Dieu de plus en plus. Un amour qui nous transforme, un amour grandiose. En fait, cet amour se trouve parfaitement dans l'œuvre et la personne de Jésus. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que cet amour-là, Jésus la déverse et nous transforme. Et cet amour-là se manifeste dans son Église. La nouveauté de ce commandement, on pourrait dire l'efficacité de ce commandement, « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé », se vérifie en lui et en vous, l'Église. L'Église est la preuve vivante que l'amour de Dieu fait une différence dans le monde. L'Église est la preuve vivante que l'amour de Dieu fait une différence dans le monde. Notre amour, non seulement pour Dieu, mais pour les autres, ça, c'est la preuve que Dieu règne, que la lumière brille et que les ténèbres se dissipent. On peut lire justement à la fin du verset 8 que cet amour-là se vérifie en lui et en nous. Et à la fin du verset 8, on le voit, car les ténèbres se dissipent et la vraie lumière brille déjà. Les ténèbres se dissipent et la vraie lumière brille déjà. Voilà l'effet de l'amour de Dieu en nous et à travers nous. Les ténèbres se dissipent et la vraie lumière brille déjà. Il a fallu que je lise ce verset-là quelques fois, je vous avoue, quand j'étudiais cette semaine le passage. Il a fallu que je le relise. Et c'est pour ça que je le répète ici. Les ténèbres se dissipent et la vraie lumière brille déjà. Pour moi, c'est surprenant parce que quand je regarde le monde autour de moi, bien souvent, je peux me trouver découragé. Découragé que beaucoup de gens qui croient pas en Dieu, Beaucoup de gens qui s'éloignent des valeurs de Dieu, qui mettent pas leur confiance dans les Écritures. Puis pour moi, quand je lis la Bible, quand je viens à l'église, quand je parle avec d'autres chrétiens, on est ensemble et on veut adorer Dieu, on veut servir Dieu, on veut obéir à Dieu. On a vu que l'amour de Jésus nous fait grandir en obéissance. Mais parfois, on regarde autour de nous et peut-être qu'on est découragé. Peut-être qu'on devient même un peu découragé à un point tel qu'on n'a plus beaucoup d'espoir. Peut-être même que ça va affecter si je vais partager ma foi ou non à quelqu'un. Parce qu'en quelque part, je crois pas cette vérité-là que les ténèbres sont en train de se dissiper. Peut-être que je dirais plutôt quelque chose comme les ténèbres sont en train de gagner sur la lumière. Notre monde s'en va de pire en pire, ça va pas bien. On peut avoir toutes sortes de réactions, toutes sortes de réflexions, puis mettre beaucoup de notre attention sur le négatif qu'on voit dans le monde en ce moment, puis avoir de la difficulté à croire que Dieu est encore en train de faire une œuvre. Et pour moi, ça me parle beaucoup. Parce que c'est sûr que il y a plein d'occasions d'être découragé, d'occasions même de se mettre en colère, d'être fâché. Mais si la parole de Dieu me dit qu'en ce moment même, les ténèbres sont en train de se dissiper parce que la lumière brille, et que la lumière brille à travers, par Jésus effectivement, mais à travers son Église, à travers son Église qui est en train de grandir en amour pour Dieu, en amour les uns pour les autres. Alors je me pose la question, est-ce que mon attention ne devrait-elle pas être à partager cet espoir-là au monde, à aimer mon prochain, à partager l'espoir qui est en Jésus, à croire que les apparences sont vraiment trompeuses parce que Jésus a déjà eu la victoire sur le péché et un jour, il n'y en aura plus de péché. Un jour, il n'y en aura plus de mal. Un jour, tout le monde va plier les genoux devant Dieu et les gens vont adorer Dieu. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'en ce moment, Dieu, dans son grand amour, nous a révélé son amour, nous a donné son amour, pas pour qu'on le garde pour nous, mais pour qu'on puisse aimer notre prochain, pour qu'on puisse chercher la réconciliation, pour qu'on puisse chercher à être prompt à demander pardon, pour qu'on puisse aider ceux qui sont dans le besoin, pour qu'on puisse même aimer, et ça c'est difficile, ceux qui pensent pas comme nous. Dieu nous appelle à être reconnus comme un peuple d'amour qui aime son prochain. Et bien souvent, aimer son prochain, c'est aider sans s'attendre en retour, c'est servir les autres sans que ça nous donne grand-chose, c'est de pouvoir piler sur notre orgueil pour pouvoir aller voir quelqu'un et demander pardon. C'est ce que Dieu demande. Mais nous avons besoin de croire que Jésus a la victoire sur le péché. Jésus règne et son règne est visible par son Église. On est la preuve vivante que son règne progresse. Parce que Jésus a d'abord transformé notre cœur rebelle jusqu'au point où on n'a pas su résister à son amour, où on a réalisé à quel point on était aimé. Je suis certain que chacun d'entre nous, si on regardait notre histoire un peu ce matin, puis on regarde en arrière, puis on pense au moment où on a rencontré Jésus, où Jésus est devenu notre sauveur. Si on regardait avant ce moment-là, je suis certain que personne ici ce matin qui est capable de dire « si je suis ici, c'est parce que je le mérite ». Si je connais Jésus, c'est parce que je le mérite. Mais c'est parce que Jésus est intervenu dans notre vie. Le soir où j'ai donné ma vie à Jésus, je m'en souviens encore, comme si c'était hier. Il y a eu ce moment-là où j'entendais Dieu qui me disait, « Dominique, là, il est temps que tu te repentes puis que tu crois en moi puis que tu me suives. » Et j'avais cette idée-là en moi que moi, puisque j'avais grandi dans l'Église, puisque j'avais eu la bénédiction de venir à l'église quand j'avais 3 ans. Je connaissais Dieu, je connaissais l'Évangile. J'étais pas mal bon parce que quand j'étais petit, je répondais bien aux quiz bibliques. Donc, je savais pas mal comment ça marchait cette affaire-là. Je me disais, quand je vais vouloir, je vais pouvoir revenir à Dieu. Mais ce soir-là, je sentais Dieu qui me disait, non, là, c'est le temps que tu arrêtes de vivre pour toi puis que tu commences à vivre pour moi. C'est le temps que tu me donnes ta vie. C'est le temps que tu crois en moi pour de vrai, que tu crois que tu es pécheur puis que je t'ai donné ma vie pour que tu puisses avoir la vie avec moi. À ce moment-là, j'avais l'impression d'être loin de Dieu. J'avais l'impression que j'étais extrêmement loin de Dieu et je me souviens d'avoir cette image-là de dire, je suis loin de Dieu, mais en un instant, Dieu a pris sa main, puis pour lui, c'était tellement pas si loin que ça. Puis il a dit, tu t'en viens à la maison. Pas parce que je méritais son amour, mais parce que Dieu m'a donné son amour. En un instant, j'ai goûté à l'amour de Dieu. Peut-être que je connaissais Dieu depuis 10 ans, depuis que j'avais 3 ans, mais à ce moment-là, j'ai goûté à l'amour de Dieu et je pouvais plus résister. On est la preuve vivante que son amour transforme et que les ténèbres se dissipent. Son règne est visible parce qu'on a goûté à son amour, mais aussi parce qu'il nous appelle à nous aimer les uns les autres, comme il nous a aimés. Comme on a vu dans le passage où quand Jésus parle à ses disciples dans Jean 13, c'est à l'amour que vous avez les uns pour les autres que le monde saura que vous êtes mes disciples. En fait, Jésus dit ça après Jean 13, 34. Il va dire le prochain verset, il va leur dire que c'est à l'amour que vous avez les uns pour les autres que le monde va savoir que vous êtes mes disciples. À l'amour que vous avez les uns pour les autres. Un nouveau commandement qui se vérifie par la manière que Jésus nous a aimés et par l'effet que son amour a sur son Église, mais aussi par l'effet que nous avons les uns envers les autres et que nous avons envers le monde. Un amour pour le monde, un amour pour les autres. Je suis toujours émerveillé par le fait que Jésus, son plan pour se faire connaître au monde, c'est nous. Je suis émerveillé par ça. Mais Jean est clair, c'est en train de se passer. La lumière brille, les ténèbres se dissipent. Et si c'est le cas, c'est parce que l'Église s'aime et aime son prochain. Si on réfléchit à ça, peut-être qu'on se dit ce matin, « Ouf, c'est toute une responsabilité, ça. » Il y a quelques années, j'ai un ami qui est venu ici, qui a commencé à venir à l'Église, puis il m'a dit un matin, il dit, « Si seulement mes amis pouvaient venir ici ce matin puis voir ce qui se passe, c'est sûr qu'ils voudraient rester. S'ils pouvaient voir l'amour que les gens ont entre eux, la joie que les gens ont de se voir. L'Église, c'est un endroit spécial. Ici, le dimanche matin, quand on est dans nos groupes, quand on est dispersé dans nos relations, dans nos travails, dans nos loisirs, peu importe. L'Église, c'est un endroit spécial. L'amour que les gens reçoivent quand ils voient l'amour de Jésus, c'est un amour spécial. Mais aimer, c'est pas toujours facile, n'est-ce pas? Norman nous a dit la semaine passée que l'amour apparaît 45 fois dans cette petite lettre-là. 45 fois. C'est un message qu'on a besoin d'entendre et de réentendre et de réentendre. Pas parce qu'on le sait pas, mais parce qu'on a besoin d'apprendre à obéir puis de grandir dans notre amour pour Dieu puis pour notre prochain. Je sais pas comment tu reçois ça ce matin, que ton amour pour les autres, est le moyen que Dieu utilise pour se faire connaître. Mais moi, cette semaine, je commençais à étudier pour le discours de ce matin. Et puis là, on était, je pense, c'était mardi, je commençais à étudier, puis là, j'avais comme pris des notes, puis j'avais une idée d'où je voulais m'en aller. J'ai même été voir Normand, puis là, j'étais tout excité, j'étais bien content. J'ai hâte de parler à l'Église de comment aimer son prochain. C'est le message le plus important de la Bible. Et là, le soir arrive, je me souviens même plus pourquoi, mais ma femme et moi, on chicane. Puis là, c'était tard, on était fatigués, c'était peut-être mieux de juste... C'était même pas une grosse affaire, c'était une petite affaire de rien, que juste comme, on en reparlera demain, on va se coucher. Là, ma femme, elle tombe endormie tout de suite. Fait que là, moi, je suis là, puis là, je commence à penser, puis à réfléchir, puis... Puis là, tout d'un coup, je suis comme, bon, je vais aller la voir demain, on va régler ça. Mais là, je dors pas. Ça me prend comme 2 heures à tomber endormi. Puis l'argument s'est transformé en, oh, on s'est pas parlé le matin en se levant. Puis là, on est allé travailler, puis là, on faisait nos affaires, on se parlait pas. Puis là, oups, c'était rendu le régime du silence dans la maison. Mais l'affaire, c'est que ma femme était même pas fâchée contre moi. Elle, elle faisait ses affaires, elle travaillait. Moi, j'étais comme, on se parle pas, mais elle était comme, on s'est juste pas vu. Puis... Mais moi, c'est ça qui se passait. Puis là, à un moment donné, je commence à réfléchir à tout ce qui se passe. Puis il y a une pensée qui vient en moi. J'aime pas ma femme en ce moment. C'est pas ça, aimer son prochain. Puis là, à un moment donné, c'est... Je veux pas la semaine, ben c'est la journée à l'avance et tout ça. Puis là, je suis comme, OK. En ce moment, je sais même plus pourquoi on s'est chicané. Mais moi, dans mon cœur, je commence à être fâché. Je commence à me culpabiliser. Puis je commence à vivre toutes sortes d'émotions qui rendent, on dirait, comme le mur entre moi puis ma femme de plus en plus épais. Puis là, à un moment donné, je dis, ben là, il faut que je travaille sur mon message pour dimanche, tu sais. Puis là, la seule chose que j'écris, c'est comment est-ce que je peux aller parler à l'église d'amour en ce moment? Je suis même pas capable d'aller dire à ma femme, je m'excuse pour hier, pardon mon amour. Puis dans ce moment de réflexion, j'ai eu cette réflexion qui dit, c'est pas vrai que t'aimes pas ta femme. Oui, en ce moment, tu manques d'amour. Tu agis pas avec amour. Mais le problème, c'est que t'es orgueilleux, Dominique. Le problème, c'est que tu t'aimes toi plus que t'aimes Kim en ce moment. T'aimerais qu'elle vienne te voir, qu'elle vienne te réconforter, qu'elle vienne te dire comment qu'elle t'aime, comment t'es beau. Mais toi, tu penses pas en ce moment qu'est-ce que toi tu pourrais faire. C'est pas comme ça que Jésus m'a aimé. J'étais convaincu que je devais aller dire à ma femme, je suis orgueilleux, je m'excuse pour hier. Puis quand j'étais convaincu de ça, ça m'a pris un autre 3 heures avant d'aller la voir. Parce qu'après avoir été convaincu que je devais aller dire ça à ma femme, qu'est-ce qui a commencé à passer? Ben, j'ai commencé à me compter le mensonge dans ma tête. Je suis pas capable d'aimer les autres. Je suis pas assez bon. J'ai besoin de changer ces mensonges. Tu sais, je commençais à me compter toutes sortes de mensonges. Ce que j'avais de besoin à ce moment-là, c'était de changer le mensonge en vérité. Et ça, on peut seulement le faire par la repentance. Quand on laisse le mensonge nous guider, quand on laisse nos fausses identités de « Ah, je suis pas bon, je suis pas capable d'aimer, je suis pas capable d'être là pour ma femme, peu importe », on se rend compte à quel point aimer, c'est difficile quand on voit nos fautes, quand on voit notre propre cœur. Quand on voit notre inconstance à aimer les autres dans nos relations, à être capable de juste demander pardon. Des fois, c'est difficile aussi parce que, ben, c'est sûr qu'à ce moment-là, on dit que c'est les autres qui sont difficiles à aimer. Mais l'amour de Dieu pour nous nous rappelle qu'on est aimé. Qu'on est aimable. Pas grâce à moi, mais grâce à Jésus en moi. On est capable d'aimer les autres à cause de ce que Jésus a fait pour nous. Quand on réalise qu'on manque d'amour, qu'on a besoin de se repentir, on a besoin de croire qu'on est les bien-aimés de Dieu premièrement et que Dieu nous a rendus capables d'aimer par sa grâce, pas parce que je le mérite. Et c'est avec cette confiance-là qu'on peut nous rapprocher des autres. C'est grâce à son amour pour nous qu'on peut être confiant que l'amour qu'on a les uns pour les autres et pour le monde est le bon plan de Dieu pour se faire connaître. Cette journée-là, Dieu m'a dit, aimer son prochain, c'est pas de devenir parfait. Aimer son prochain, et c'est ce qu'on voit dans 1 Jean. On va même le voir si on lisait le verset 9, c'est celui qui prétend être dans la lumière tout en détestant son frère est encore dans les ténèbres. Si je poursuis cet acte de détester quelqu'un, si je dis que je déteste quelqu'un, que j'ai aucun intérêt à l'aimer, c'est bien différent que de réaliser que j'ai de la difficulté à aimer quelqu'un. Et que là, on va peut-être se compter toutes sortes de mensonges, mais quand on entend ces mensonges-là, on a besoin de prendre une pause et se rappeler comment on a été aimé. Qu'est-ce que Dieu a fait dans nos vies? Comment Jésus nous a remplis de son amour? On n'est pas des personnes qui n'aiment pas, on est des personnes qui aiment, que Dieu appelle à aimer. Il veut qu'on aime les autres. Et dans ces moments-là, quand on ne le croit pas, quand on ne le vit pas, quand on a de la difficulté à le faire, ce qu'on a besoin de faire, c'est de confesser. Seigneur Jésus, je suis orgueilleux en ce moment. Je suis orgueilleux. J'ai besoin que tu viennes transformer mon orgueil. J'ai besoin que tu m'aides à aimer. J'ai besoin que tu m'aides à demander pardon, à aider mon prochain. J'ai besoin que tu m'aides à être capable de donner du temps aux autres pour pouvoir aimer mon prochain. Parce que l'amour, c'est la démonstration éclatante de la victoire de Jésus sur le mal. Et c'est là que Dieu nous appelle à mettre notre attention, à aimer les autres. Nous efforcer à croire que la lumière brille puis que les ténèbres sont en train de se dissiper. Je vais inviter les musiciens à se joindre à moi. On a besoin de croire que malgré que la lumière brille, que les ténèbres se dissipent, on le sait qu'aujourd'hui, c'est pas encore parfaitement comme ça. Mais ce qu'on sait, c'est qu'un jour, on va être parfait. Un jour, on va être patient. Notre orgueil va être parti. Notre incapacité à aimer les autres quand on veut les aimer. Tu sais, ce petit moment-là d'incompréhension de « Hey, j'aime tellement cette personne-là, mais quand j'essaie de parler avec ou de développer une relation avec ou d'aller la voir pour lui demander pardon, c'est difficile, ça va disparaître. » Mais aujourd'hui, Dieu nous appelle à nous efforcer à vivre dans son amour et à chercher à aimer notre prochain. Que nos moments de découragement, que nos moments de colère, que les moments où on voit des choses avec lesquelles on n'est pas d'accord, des choses qui nous découragent, qu'on peut voir dans notre ville, dans notre travail, dans notre pays, soient tout d'abord des moments, non pas pour critiquer puis pour chialer, mais des moments pour demander à Dieu, donne-moi de l'amour pour mon prochain. Parce qu'en ce moment, mon prochain, je le trouve difficile à aimer. Donne-moi de l'amour pour mon prochain. Et la façon qu'on peut aimer de cette manière-là, c'est de dire, rappelle-moi à quel point tu m'as aimé, Jésus, pour que je puisse aimer comme tu m'as aimé. Et ce matin, on va prendre le repas du Seigneur ensemble. Le repas du Seigneur, c'est pour tous ceux qui avaient mis votre foi en Jésus, qui avaient mis votre confiance en Jésus. Jésus, c'est votre sauveur. Il est mort à la croix pour vous pardonner de vos péchés. Et quand on prend le repas du Seigneur, eh bien, on prend ce morceau de pain, cette coupe, pour nous rappeler ce que Jésus a fait pour nous. On se rappelle que Jésus a donné sa vie par amour pour qu'on puisse avoir la vie avec lui, pour qu'on puisse l'aimer et aimer notre prochain. Donc, on va faire ce chant avec l'équipe de louanges et par la suite, on va prendre le repas du Seigneur ensemble.